Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition Géopolitique que vous pouvez également écouter en podcast. Depuis la ville de Brest, deuxième volet de notre série sur la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Le golfe de Guinée, c'est près de 6000 km de rivage de l'Afrique de l'Ouest allant du Sénégal à l'Angola. En ce mois de mars, à l'initiative de la Marine nationale française, marines africaines et experts étaient rassemblés à Brest pour mettre en place l'édition 2024 de l'exercice de sécurité maritime dans le golfe de Guinée, baptisé Grand African Nemo, exercice annuel depuis son instauration en 2018, qui rassemble les marines riveraines du golfe de Guinée et les nations invitées par la France. Regard aujourd'hui sur un phénomène en pleine expansion, la pêche dite INN, illicite, non déclarée et non réglementée. Nous avons évoqué la semaine dernière que du fait de ses richesses, le golfe de Guinée était en proie à une criminalité maritime qui se mue avec l'évolution des moyens de réponse que les États, la Commission du golfe de Guinée, la Communauté économique des États d'Afrique centrale et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et leurs partenaires internationaux apportent pour endiguer les menaces qui y sévissent. Les plus récurrentes, nous l'avons évoqué, sont la piraterie, le brigandage maritime, les vols à main armée, le siphonnage des carburants, les trafics de drogue, la vente illicite des carburants en mer, les migrations clandestines, la surpêche, la pêche illicite non déclarée et non réglementée, dont nous allons donc parler aujourd'hui avec nos invités. Virginie Saliou, titulaire de la chaire Mer, Maritimité et Maritimisation de Sciences Po Rennes, enseignante à l'école navale et chercheur à l'IRSEM, l'Institut de recherche de l'école militaire. Bonjour.
Bonjour.
François Leloc, directeur de recherche à l'Institut de recherche de développement de Brest. Bonjour.
Bonjour.
Et Emmanuel Sabouni Kassereka, secrétaire exécutif intérimaire de la COREP, la Commission régionale des pêches du Golfe de Guinée, institution spécialisée de la CEEAC, qui est la Communauté économique des États d'Afrique centrale. Bonjour.
Bonjour.
La pêche donc illicite, non contrôlée et non réglementée, de quoi est-il question par rapport à la situation dans le golfe de Guinée? Qui se lance en premier? Virginie Saliou.
Alors, en effet, pour préciser ce qu'est la pêche illégale, il est important de comprendre les termes et notamment de distinguer peut-être l'élément de surpêche qui va être la surexploitation des stocks reproducteurs et de distinguer la pêche INN dont vous avez parlé, illicite pour une absence d'autorisation de pêche. Donc ça va dépendre des organisations régionales ou nationales qui vont donner des licences de pêche et vous avez des pratiques sans ces autorisations. Vous avez la pêche non réglementée, celle qui va être pratiquée par des États qui modifient leur pavillon, enfin des États, plutôt des navires qui modifient leur pavillon, sachant que dans le cadre de la pêche, c'est bien la responsabilité de l'État du pavillon qui va notamment compter. Et puis la pêche non reportée, non déclarée, eh bien c'est l'absence de déclaration au port. Et en fait, ces différents types de pêche vont engendrer différents types de pêcheurs illégaux. Et ça, c'est d'autant plus important dans le golfe de Guinée que la pêche est un enjeu majeur.
François Leloc.
Oui, moi, je voulais dire que cette région du golfe de Guinée, elle est particulièrement vulnérable en raison de la surexploitation, comme l'a dit Virginie. Donc cette surexploitation signifie qu'on va pêcher de façon non durable. Et pourquoi est-ce qu'on va pêcher de façon non durable? Eh bien, parce qu'on a un déficit de gestion de cette pêche. Et ce déficit de gestion, il est en grande partie lié au déficit de données. On a un manque de données qui nous empêche en fait de connaître véritablement l'état de ces stocks. Et en plus de tout ça, il y a une pression croissante des flottes étrangères qui viennent pêcher dans la zone, et il y a en parallèle un essor du secteur de la pêche artisanale dans le golfe de Guinée. Donc ces facteurs conjugués font qu'il y a une forte pression sur les stocks qui sont exploités dans cette zone du monde.
Alors l'absence de données, évidemment, elle est flagrante. C'est vrai que dans le cadre de la préparation de cette émission, me sont apparus des chiffres. Alors le golfe de Guinée attire 40% des chalutiers illégaux. La pêche illégale conduit à la perte de plus de 300 000 emplois de pêche artisanale dans la région. Votre commentaire, Emmanuel Sabouni Kassereka?
Oui, moi je dirais qu'il y a un problème de suffisance en matière de gouvernance des pêches. C'est-à-dire que les États qui ont la responsabilité de gérer durablement les ressources ne mettent pas en place des moyens, tant humains que matériels, suffisants pour pouvoir contrôler l'espace maritime. Même aujourd'hui, quand on parle des chiffres, ce sont des estimations, mais qui sont difficiles aussi à justifier, puisqu'on n'a pas le moyen de recueillir réellement les chiffres dans l'espace maritime. C'est ça la grande faiblesse de gestion des ressources halieutiques dans le golfe de Guinée.
Quelles sont les difficultés réelles à pouvoir chiffrer, comprendre ce qui se passe? Pourquoi est-ce plus difficile pour la pêche illicite que les autres fléaux qu'on a évoqués dans l'émission de la semaine dernière, Virginie Saliou?
Alors, d'une part, l'estimation ne veut pas dire qu'on... Alors, ça veut dire qu'on méconnaît un peu le problème, mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Pour vous donner une idée, quand on prend les déclarations de pêche, on est sur une stabilité autour de, si je ne me trompe pas, 90 tonnes de poissons pêchés par an au niveau mondial. 90 millions, voilà. Mais avec une consommation qui augmente. Ce qui veut dire qu'il y a forcément une pêche non déclarée quelque part. Et ça, c'est un premier élément. Pour ce qui est ensuite de l'estimation, d'une part, des stocks dans le golfe de Guinée, l'insécurité maritime dans cet espace est un des premiers éléments, puisqu'il est difficile d'aller y conduire des études, les bateaux pouvant être cibles d'attaques de piraterie ou d'insécurité dans la zone. Il y a aussi peut-être un manque d'instituts de recherche en mesure de le faire dans cet espace. Et puis enfin, puisqu'on est dans une activité illégale, eh bien, il faut des moyens de surveillance pour pouvoir l'identifier. Et ça, c'est aussi un défi pour les États africains et les partenaires internationaux que de pouvoir identifier ces pratiques illégales.
Alors finalement, tout est un peu lié, François Leloc, hein, pêche illicite et puis tous les autres fléaux, alors piraterie, trafic de drogue, trafic d'humains, etc. Tout ça range cette région, alors peut-être spécifique à l'échelle mondiale ou finalement il y a d'autres points
Alors non, c'est une région qui est relativement spécifique, mais qui est également relativement diverse, puisque du Sénégal à l'Angola, on a des écosystèmes différents qui produisent des quantités de poissons différentes. Typiquement, au Sénégal, on a une forte production de petits pélagiques, de petits poissons qui sont liés à l'upwelling, donc à ces remontées d'eau riche en sel nutritif, alors que dans le fond du golfe du Guinée, on a une production qui est moindre et qui est basée plus sur des poissons de fond que sur des poissons pélagiques. Cette zone, elle est aussi importante pour la pêche au thon. C'est la zone dans l'Atlantique où on pêche le plus de thons tropicaux, ces thons qui vont finir dans les boîtes qu'on peut consommer ici. Donc cette zone, elle est très diverse et, comme l'a dit Virginie, le besoin de connaissances, il est extrêmement important, mais il est extrêmement difficile à collecter. Ces connaissances sur la pêche, on en a besoin en suivant, par exemple, les débarquements, ce qui n'est pas fait forcément dans tous les pays, mais également en faisant de la recherche scientifique pour aller en mer, pour essayer d'estimer des abondances des différents stocks de poissons. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, de nombreux pays du golfe de Guinée n'ont pas les moyens d'aller en mer pour essayer de faire ce suivi scientifique. Évidemment, le fait qu'il y ait de la piraterie ou toutes sortes de trafics ne facilite pas, évidemment, les choses dans cette zone du monde.
Alors, je ne sais pas si vous souhaitez intervenir à ce stade, Emmanuel Sabouni-Kassereka. Moi, il y a tout de même des outils, il y a quand même des choses qui ont été créées, montées. Il y a l'architecture de Yaoundé. En quoi contribue-t-elle à... Non, pas du tout. Alors, et ensuite, il y a des instruments. On parlera ensuite des acteurs, mais il existe des instruments.
Oui, en effet, il faut d'abord pouvoir... dire exactement que les données, c'est de la responsabilité des États, notamment pour les services de statistiques et également les centres de recherche. Mais il se fait que ce sont des services qui sont les moins financés par les différents gouvernements. Donc vous avez, par exemple, à ce qui concerne l'Afrique centrale, donc du Cameroun jusqu'en Angola, vous avez très peu de centres de recherche. Et le centre de recherche qu'on peut retenir, qui a vaut la peine d'être cité, c'est le centre de recherche de l'Angola à Luanda. Mais les autres centres ailleurs, ils ne sont pas financés comme tels. Et aussi, à ce qui concerne les statistiques, il y a plusieurs appuis qui ont été apportés par les partenaires techniques et financiers pour pouvoir améliorer le système de collecte et de traitement des données statistiques. Mais il se fait que quand le projet se termine, effectivement, l'opération aussi se termine, puisque le service se retrouve sans moyen de pouvoir continuer tout ce qui a été mis en place. Voilà un peu le paradoxe que nous vivons en Afrique centrale à ce qui concerne les données.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Donc, Virginie Saliou, absence de moyens, c'est vrai que c'est essentiel. J'en reviens à la question des outils. Quelle place pour l'architecture de Yaoundé sur cette question? Là aussi, la charte de Lomé, une charte signée en novembre 2016, qui est la charte africaine sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement en Afrique, est un instrument qui a pour objectif d'éradiquer les menaces maritimes comme la pêche illicite, quelle efficacité. Et puis, le Port State Measures Agreement, donc cet accord qui permet aux États signataires, ils ne le sont pas tous, c'est aussi la difficulté, vous allez nous en parler, d'inspecter les navires de pêche étrangers.
Alors, en effet, pour revenir sur le processus de prise de conscience de l'importance de la pêche illégale, c'est important de rappeler qu'on a eu le sommet de l'Union africaine en 2012 qui a créé la stratégie de sécurisation et de développement de l'économie bleue de l'Union africaine. Et puis, on a eu spécifiquement pour le Golfe de Guinée l'architecture de Yaoundé qui, comme on le disait la semaine dernière, était principalement axée au départ, en tout cas, sur la piraterie, la lutte contre la piraterie et le brigandage. Mais très rapidement, en fait, on s'est rendu compte que, puis essentiellement les États africains, ont fait valoir le fait que c'était bien la pêche illégale qui était la plus grosse menace sur la sécurité alimentaire des États et sur la sécurité et l'instabilité politique peut-être plus globale de la région, puisque quand on a insécurité alimentaire, alors on a en plus des chiffres qui augmentent extrêmement rapidement, en 2 ans il y a eu un doublement pour atteindre près de 6 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire due à la pêche illégale en 2022. Donc ce sont des données importantes. Cette prise de conscience, elle a fait que des mécanismes ont été intégrés dans l'architecture de Yaoundé, également par les organisations régionales de pêche. Il y en a 3 dans la région, 2 pour la CDAO et puis une pour la CEAC, et par progressivement les États. Évidemment, le problème est sur la bonne volonté des États à lutter contre ce fléau. Certains États sont très allants, mettent en place des dispositifs de contrôle, mettent une volonté qui se traduit souvent par une volonté financière dans la lutte contre ces pêches illégales, mais on a aussi des cas un peu désarçonnants de licences qui sont attribuées par certaines administrations qui sont assujetties à de la corruption. C'est pas le cas de tous, mais ça existe. Et ça entrave évidemment les exercices également qui sont conduits.
Vous parlez de licences de pêche.
Oui, tout à fait. Et quand vous avez une arrestation en mer d'un navire dans un cas de situation illégale et que les moyens de l'État ont fait ce qu'ils pouvaient pour le conduire au port et qu'arrivé au port, une licence est attribuée, alors que le bateau n'en avait pas en mer, et bien évidemment, ça complique la tâche de l'ensemble de la chaîne administrative. Donc il y a une prise de conscience réelle. Il manque encore, sans doute, pour certains États, de volonté. Et il manque de moyens, surtout, pour que les États qui en ont la volonté puissent réussir à mettre en œuvre, en fait, cette lutte contre la pêche illégale.
François Leloc.
Oui, je voulais rebondir là-dessus. C'est vrai que c'est un point crucial, hein, que le contrôle de la pêche. Alors, ce contrôle de la pêche en mer, il est compliqué parce que tous les États n'ont pas forcément les moyens navigants pour pouvoir aller contrôler les navires de pêche en mer. Certains États ont délégué une partie de leur souveraineté à des ONG pour réaliser ce contrôle des pêches. mais on a de plus en plus d'outils, de moyens pour essayer d'estimer en fait la présence de navires, notamment de navires de pêche, dans les eaux des États. Je pense évidemment aux images satellites qui sont utilisées par, qui sont mises en œuvre par différentes entreprises, comme par exemple Unseen Lab, qui est une entreprise française qui développe ce genre de choses, ou alors des ONG comme Global Fishing Watch. Donc voilà, il y a des moyens de contrôler, en tout cas d'estimer la présence de bateaux de pêche, même en activité de pêche dans certaines zones, sans forcément aller faire du contrôle en mer. Évidemment, ça pose après le problème d'aller interpeller éventuellement ces navires en haute mer, et ça, c'est encore un autre problème.
Alors, on essaiera aussi de comprendre quels sont les modus operandi, finalement, hein, comment tout cela se passe. Emmanuel Sabouni, Casarica.
Oui, effectivement, comme vient de le dire celui qui m'a précédé,
François Leloc.
On est en train de mettre à place quand même des structures pour pouvoir améliorer la situation. Tout à l'heure, on a parlé de l'architecture de Yaoundé. Mmh. Pour l'Afrique centrale, nous avons le Centre régional de sécurité maritime, CRESMAC, qui couvre les 7 pays côtiers de l'Afrique centrale. Et puis, nous avons la Commission régionale de pêche du Golfe de Guinée, la COREP. Il s'agit maintenant de voir comment mutualiser nos moyens et essayer de mettre à place un mécanisme de coordination régionale des systèmes de suivi, contrôle et surveillance des activités de pêche. Cela veut dire que c'est un projet qui est à court d'études. Et en fait, pour pallier au déficit de moyens navals, pour aller en milieu marin faire le contrôle sur place, dans notre sous-région, nous disposons quand même de l'Agence gabonaise des études et d'observation spatiale, AGEOS, que tous les pays devront accepter d'utiliser dans ce mécanisme régional pour avoir à tout instant la situation réelle à mer. Pas seulement pour les navires de pêche, mais pour tous les bateaux qui sillonnent la zone. Je pense que quand on arrivera à ce point, nous pensons qu'on aura un début de solution.
Alors, il nous reste 2 minutes avant la fin de la première partie de cette émission. Qui sont les acteurs principaux de la pêche illicite dans le golfe de Guinée ? Virginie Saliou.
Alors, je dirais qu'il y en a deux types. Il y a les pêcheurs industriels, la grande pêche industrielle organisée. Les données dont on dispose, je m'appuie sur un rapport du Sénat de 2023, visent principalement des armateurs d'origine chinoise ou russe dans la région. Même si ce ne sont pas les seuls, quand on étudie sous forme de revue de presse les arrestations par les États riverains, les marines riveraines, ou bien par les ONG dans la région, on ne peut pas réduire la pêche INN uniquement à ces deux seuls acteurs. Pour ce qui s'agit des pêcheurs étrangers, on a aussi des cas de pêcheurs illégaux espagnols, hein, de temps à autre. On a des cas de pêcheurs asiatiques d'autres nationalités comme les Philippines ou bien comme l'Indonésie. Et puis on a la pêche artisanale. Et là, ce sont des pêcheurs africains. Alors, nécessité, parfois, parce que face à une réduction des stocks, il y a un besoin justement de sécurité alimentaire. Et dans un certain nombre de témoignages, vous avez des pêcheurs artisanaux qui vous disent « Nous savons que nous utilisons des filets qui ne sont pas à la bonne taille ou qui sont nuisibles à la biodiversité marine, mais on préfère plutôt que de rentrer bredouille au port. » Il y a un problème, on en parlait tout à l'heure également, de déclaration. Si vous n'avez rien pour déclarer votre pêche, vous allez faire de la pêche non déclarée.
Je vous interromps, Virginie Saliou. On poursuivra dans la deuxième partie de l'émission. On vous retrouve avec François Leloc et Emmanuel Sabouni Casereka. On laisse la place au journal. A tout de suite.
Géopolitique. Marie-France Chatin.
Depuis Brest, regard sur la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Nous parlons aujourd'hui plus spécifiquement de la pêche dite INN illicite, non déclarée et non réglementée dans la région. Alors, je retrouve nos invités, Virginie Saliou, François Leloc et Emmanuel Sabouni-Cassereca. Virginie Saliou, je vous ai interrompu, vous évoquiez le problème de déclaration de pêche. On avait juste un petit peu rapidement peut-être abordé la question des acteurs de la pêche illicite dans le golfe de Guinée. Vous avez évoqué les armateurs chinois, les armateurs russes. Je reviens juste sur une donnée que j'ai relevée en préparant cette émission. Parfois, les Chinois ont des licences de pêche qui peuvent aller jusqu'à 90 ans.
Oui, en fait, on a des pratiques extrêmement variées. Donc pour identifier les cas de pêche illégale, effectivement, les autorités chinoises achètent des licences légales à certains États, mais vont fonctionner sur le mode du sistership, c'est-à-dire qu'ils vont avoir plusieurs bateaux qui vont porter des noms identiques ou bien qui vont avoir des immatriculations identiques. Et donc, la pêche va être illégale parce que plusieurs bateaux vont pêcher avec la même licence. Vous avez aussi des cas de négociation qui sont faites avec l'accord des États, pour partie, de construction d'une infrastructure ou d'un port en échange de droits de pêche. Donc, on est sur quelque chose d'assez ambivalent, puisque des droits sont payés ou sont accordés. Mais en même temps, on sait qu'il y a une pratique ensuite qui va augmenter et qui va prendre plus de poissons que ce que les droits peuvent accorder. Ça va se traduire également par du transbordement en haute mer, ce qui fait qu'au lieu d'aller au port et de déclarer en fait ce qu'on a pêché, eh bien, le poisson va dans des bateaux frigos qui attendent dans des zones internationales. Et donc, vous avez plus de poissons qui sont pêchés à ce moment-là. Et ça peut être le cas des pêcheurs industriels, mais aussi de certains pêcheurs locaux qui pourraient éviter des commissions ou des frais payés à terre, vont aller emmener en fait ces poissons et les transborder. Et puis, vous avez également des pratiques qui sont de réels dangers pour la navigation. On parlait de la surveillance satellitaire tout à l'heure. Ça fonctionne à condition que il n'y ait pas trop de perturbations des systèmes AIS d'authentification, justement, par satellite.
Systèmes AIS sont les bateaux qui
émettent en fait leur position. Voilà. Parce qu'évidemment, quand vous êtes en situation de pêche illégale, eh bien, vous avez des perturbations des systèmes AIS qui fait que vous êtes dans le golfe de Guinée, mais on vous retrouve en plein milieu du Pacifique, ou bien vous avez carrément une coupure du système. Et quand on est dans une zone où vous avez, on estime, 4000 navires par jour qui se côtoient sans compter les pirogues, eh bien, vous avez des risques d'accident de la navigation et de mortalité pour les pêcheurs artisanaux qui sont très importants.
Surtout avec l'intensification du trafic et de la remontée des bateaux depuis le sud de l'Afrique vers le golfe de Guinée pour cause de troubles en mer Rouge, et tout ça intensifie le trafic. Emmanuel Sabouni-Cassereca.
Oui, effectivement, je vais plutôt aborder du côté d'un exemple que nous avons vécu, puisque nous avons mis à place le registre des navires de pêche industrielle. Et d'abord, il y a eu des pays qui n'étaient pas partants.
Mmh. Ils étaient nombreux.
Non, surtout 2 sur 7. Mais pour le moment, il reste un seul pays qui n'a pas encore accepté qu'on puisse réaliser son registre national des navires de pêche. Et quand on avait effectué ce travail, nous avons trouvé qu'il y a un pays qui avait un nombre incroyable de navires de pêche qui n'était pas conforme au potentiel halieutique qui lui est reconnu.
C'est-à-dire, très clairement?
C'est-à-dire un pays qui dispose de potentiel, prenez des 100 000 tonnes par an, mais qui va avoir une centaine de navires pour lesquels, pour être rentabilisé, il leur faut 300 000 tonnes. Alors vous vous demandez comment on peut octroyer autant de licences de pêche, tout en sachant qu'on est limité dans les ressources qu'il faudrait exploiter. Ce qui fait que ces navires, certainement pour être rentabilisés, doivent quitter leur zone de pêche vers d'autres zones de pêche.
C'est-à-dire aller plus loin?
Oui, aller plus loin, dans un autre pays où il n'est pas autorisé, Vous voyez, il y a aussi une complaisance de certaines administrations dans la délivrance des licences de pêche. C'est dire qu'ils ne suivent pas la procédure officielle. Vous ne pouvez pas délivrer une licence de pêche sans même avoir visité le bateau qui doit aller pêcher, ainsi de suite. Donc vous retrouvez comme ça même des bateaux qui doivent aller à la casse, mais qui ont reçu des licences de pêche. Et qui, ça devient même un danger en mer pour les autres bateaux. Alors, il y a aussi un autre problème que nous rencontrons souvent, c'est le traitement des dossiers pour des navires qui sont en infraction. C'est dit, un inspecteur qui a constaté des infractions, il fait son PV, mais à la hiérarchie supérieure, l'armateur n'est pas sanctionné, puisqu'il y a des combines, ainsi de suite. Donc ça, ce sont des cas qu'il faut que aussi la pêche INN a plusieurs facettes. Nous avons également constaté que même les navires autorisés à pêcher, il faut un suivi de leurs activités en mer. Je prendrai le cas, par exemple, la flotte de l'Union européenne qui est autorisée à pêcher au Gabon. Bon, ils connaissent la réglementation, les bonnes pratiques. Mais quand ils ne sont pas suivis, ce n'est pas bon. Il a suffi qu'une fois que le Gabon mette des observateurs à bord pour constater certains manquements. Par exemple, pêcher des espèces qui sont protégées, les régés en mer, ainsi de suite, puisqu'ils ne s'intéressent qu'au thon. Donc vous avez une quantité incroyable de poissons qui est rejetée en mer. Et puis la façon dont les poissons sont rejetés en mer, il n'est plus récupérable. Donc tout ça, vous voyez, ce sont des ressources qui sont importantes dans la nutrition, mais qui sont perdues comme ça. Alors ça, c'est un cas. Et je pense qu'il faudrait voir le problème d'une manière globale. C'est dire, pour qu'on lutte plus efficacement contre la pêche INN, il faut que toutes les administrations qui sont impliquées dans l'action de l'État en mer soient associées à cette lutte. Voilà un peu ce que je peux dire à ce niveau.
C'est important, effectivement. On relève et on comprend une certaine désorganisation et des intérêts non convergents en fonction des pays. François Leloc, la question du changement climatique, évidemment, va avoir un impact sur cette question de la pêche illicite.
Oui, effectivement. À l'échelle, en fait, des écosystèmes marins, le golfe de Guinée, c'est un des écosystèmes qui subira le plus de changements. On estime qu'à l'horizon 2050, il y aura une diminution de 30% des captures dans le golfe de Guinée liées au changement climatique. Alors pourquoi ? Parce que les modèles de prédiction indiquent une diminution de la production primaire. La production primaire, ce sont le phytoplancton qui est à la base en fait, des chaînes alimentaires et qui va venir alimenter tous les petits poissons qui vont ensuite être mangés par les gros poissons. Donc les modèles de prédiction nous indiquent de fortes diminutions des captures dans le golfe de Guinée à l'horizon 2030. Évidemment, la pêche INN vient impacter fortement la durabilité des stocks exploités, donc en termes de surexploitation, bien sûr, mais aussi en termes de diminution de la biodiversité. On comprend bien que si on a une diminution des captures, alors qu'en parallèle, on a une augmentation de la démographie dans la zone Golfe de Guinée, hein, c'est ce que montrent également les modèles de prédiction, eh bien, on va assez vite arriver à des problèmes de sécurité alimentaire. Et on sait que les pays du golfe de Guinée sont des gros consommateurs de poissons. Par exemple, le Gabon consomme 40 kg de poissons par an et par habitant, là où en France, on en consomme 30, par exemple, et on est parmi les gros consommateurs également. Donc vous voyez que ce changement climatique, il va impacter de façon très très forte la zone golfe de Guinée, en tout cas pour ce qui est de sa partie marine.
Vous écoutez RFI, Géopolitique.
Alors, tout ça est évidemment très important et nous montre l'urgence qu'il y a à trouver des solutions. Vous l'aviez évoqué, Virginie Saliou, la pêche illégale menace la sécurité alimentaire, la sécurité politique. C'est dire combien on touche là à quelque chose d'absolument essentiel pour les pays riverains du golfe de Guinée.
Oui, absolument, parce que cette diminution des captures est pour certains cas déjà à l'œuvre dans certaines zones et va ne faire que s'accentuer, comme le disait François, sur les années à venir. Parallèlement, ça a des conséquences localement avec une augmentation du prix du poisson, ce qui va évidemment avoir un effet pernicieux. Et puis, comme le disait Emmanuel également, les phénomènes sont intrinsèquement liés entre eux. C'est-à-dire que vous allez avoir des trafics illégaux qui vont se développer suite à cette pêche illégale. Un pêcheur ne devient pas pirate comme ça. En revanche, un pêcheur qui ne peut plus vivre de sa pêche va peut-être être sollicité par des organisations ou choisir lui-même d'utiliser le bateau comme un vecteur de transport de drogue pour pouvoir compléter ses revenus. Va peut-être, en fonction du prix du baril du pétrole, être obligé de se livrer à du bunkering ou de du siphonnage en fait, du vol de carburant raffiné essentiellement, hein, puisque le golfe de Guinée est une zone de production majeure de pétrole, mais il y a très peu de raffineries, donc ils réimportent du pétrole raffiné. De même que, compte tenu des besoins en poisson, les États du golfe de Guinée vont importer du poisson depuis d'autres États qui a peut-être été pêché illégalement dans leurs eaux. Donc on est sur des chaînes d'insécurité qui nécessitent un travail interadministration, comme cela a été dit, et une volonté politique forte.
D'autant, Emmanuel Sabouni-Kassereka, que la perte de sécurité alimentaire peut conduire, il faut en avoir conscience et affronter cette problématique de face, à toute une gamme de conflits.
Oui, en fait, d'abord, pour reprendre ce qui a été dit tout à l'heure, ce sont les pays en Afrique centrale, les pays côtiers, les plus grands consommateurs qui ont un taux de consommation le plus élevé en Afrique. Si vous voyez, par exemple, les pays comme Sao Tomé, leurs ressources à protéines animales, c'est le poisson. Donc, il vous consomme au-delà de 40 kilos par
oui,
personne.
Oui, ce que disait François Leloc, effectivement.
Oui, voilà,
c'est 10 kilos de plus que notre consommation ici en France, par exemple.
Oui, ça, normalement, les pays doivent en être conscients. Et également, ce qui est paradoxal, les pays qui sont reconnus être grands détenteurs de ressources halieutiques sont devenus aussi des grands importateurs du poisson. On ne peut pas les citer ici, mais ils sont connus. Alors vous avez même des équilibres dans la balance commerciale et vous avez des problèmes de malnutrition. Et en fait, ça amène pas seulement une sécurité alimentaire, mais aussi ça peut amener une sécurité politique.
Ce que Virginie Saliou a évoqué précédemment.
Donc je crois qu'aujourd'hui, tous ces pays doivent voir comment pouvoir sortir de cette situation. Maintenant, nous, en tant que techniciens, comme c'est un problème difficile aussi à résoudre d'un coup, nous avons quand même un palliatif, c'est que nos pays doivent aussi aller au-delà, essayer de pouvoir développer aussi l'aquaculture commerciale, puisque cette aquaculture peut avoir comme main-d'œuvre les jeunes, les femmes, qui peuvent vraiment produire un surplus pour pouvoir sortir rapidement de cette situation.
Virginie Saliou.
Oui, sur ces deux points majeurs qu'Emmanuel mentionne, le premier, c'est qu'effectivement, la pêche illégale entraîne de la traite d'êtres humains. Principalement des femmes et des enfants qui sont employés en fait de façon illégale sur un certain nombre de navires et puis qui subissent au premier titre ces pratiques. Et un point également sur l'aquaculture, parce que ce qui est important d'avoir en tête, c'est que le développement de l'aquaculture peut être un substitut à cette pêche illégale, et paradoxalement, il la renforce, notamment parce que la pêche au petit pélagique, qui est la ressource alimentaire première des populations locales du golfe de Guinée, est aussi utilisée pour des farines de poisson qui permettent de nourrir en fait les poissons dans l'aquaculture. Donc on a des équilibres très difficiles à trouver entre ce développement d'une aquaculture qui permet de préserver la ressource naturelle et l'épuisement des stocks également.
François Leloc, quelles sont les priorités aujourd'hui par rapport à tout ce que nous avons évoqué ?
Alors, si on s'intéresse précisément à la pêche INN, je pense que la première priorité, c'est le contrôle. C'est vraiment le suivi des flottilles qui pêchent dans les eaux nationales. Donc, ce contrôle, il doit se faire évidemment en mer, avec des unités navigantes. Il doit se faire également via les satellites, qui sont des outils extrêmement puissants maintenant. Et il doit se faire également à la débarque. Donc, c'est-à-dire lorsque le poisson arrive à terre, il faut également qu'il y ait des contrôles, notamment de conformité.
Vous partagez, Emmanuel Sabouni-Kassereka?
Oui, je pense qu'il vient de dire juste, puisque c'est même par là que j'ai commencé. Et aujourd'hui, je me retrouve à Brest, puisque c'était aussi une occasion de rencontrer différents partenaires techniques et financiers. Et dans les échanges que j'ai eus, j'ai dit, bon, nous avons besoin de projets d'appui pour la pêche, mais dans ce projet, une des priorités, c'est de nous aider à pouvoir améliorer nos systèmes de contrôle à mer. Et ça, il n'y a pas seulement que les services de pêche qu'il faut utiliser, mais nous avons aussi les marines nationales, eux qui ont comme vocation à aller tout le temps en mer, alors que les services de pêche n'ont pas cette possibilité d'aller toujours en mer. Donc il faut former les marins à pouvoir savoir comment procéder pour contrôler un navire de pêche, puisque c'est une procédure, et puis ils doivent savoir où peut se situer une infraction sur un navire de pêche. Donc c'est ça, je l'ai dit dès mon arrivée ici à Brest, et je crois que j'ai une oreille attentive.
C'est en cela que la France peut vous aider, et dans quels autres domaines, Emmanuel Sabouni-Kassereka?
Bon, et justement, il faut maintenant aussi améliorer aussi les pratiques de la pêche artisanale, puisque on ne peut pas jeter les pierres seulement sur la pêche industrielle. Vous savez, nous avons une pêche artisanale qui est éparpillée, pas très bien contrôlée. Il faut qu'on arrive à les organiser pour mieux pouvoir les encadrer, puisque même si les industriels se retirent et que la pêche artisanale n'est pas encadrée, elle aussi elle est concernée par la pêche INN. C'est les mauvaises pratiques, même si vous avez la licence, mais quand vous entrez dans de mauvaises pratiques, ça devient une pêche INN.
Virginie Saliou, en guise de conclusion.
Alors, en guise de conclusion, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense que cette prise de conscience, elle est vraiment importante dans le Golfe de Guinée. Quand on voit les exercices conduits par la Marine nationale française, la mission Corimbe, on voit qu'à la demande des États riverains, 70% des exercices qui sont conduits sont liés à la lutte contre la pêche INN. Donc, c'est quand même une donnée qui est importante. Et puis, il y a un deuxième point, c'est la sensibilisation à cette question et la médiatisation de cette question. Parce que finalement, la pêche INN n'est pas si médiatisée, n'est pas si connue, et ça c'est important pour le consommateur également. Alors il y a un travail à faire sur la pêche artisanale, mais il y a un travail qui est aussi de pouvoir savoir où et dans quelles conditions le poisson a été pêché quand on veut le consommer, et ça c'est important.
En tout cas, on a bien compris aussi combien, et vous l'avez dit plusieurs fois, et voilà, médiatisation, bah écoutez, Géopolitique était là pour médiatiser cette problématique de la pêche illégale.
Merci.
Qui est une menace, donc on l'a bien compris, et c'est très important, à la fois sur la sécurité alimentaire et la sécurité politique. Merci Virginie Saliou, je rappelle que vous êtes titulaire de la chaire Mer, Maritimité et Maritimisation de Sciences Po Rennes, enseignante à l'École Navale et chercheur à l'IRSEM, l'Institut de Recherche de l'École Militaire. François Leloc, directeur de recherche à l'Institut de Recherche de Développement de Brest. Et Emmanuel Sabouni-Kassereka, secrétaire exécutif intérimaire de la COREP, la Commission Régionale des Pêches du Golfe de Guinée, une institution spécialisée de la CEAC, qui est la Communauté économique des États d'Afrique centrale. Géopolitique était signé Marie-France Chatin et Bertrand Éclair à Brest, Nathalie Laporte à Paris. Vous êtes bien sur RFI, place au Journal Afrique.